Bonjour à tous et bienvenue dans ce 33e numéro de Third Émission, une émission aujourd'hui dédiée à Grandia, un grand grand souvenir du JRPG pour nous tous. Pour en parler, je suis accompagné de Damien Méchery. Comment ça va Damien ?
Très bien, c'était fait exprès le grand grand RPG, Grandia.
Tout est préparé, c'est monsieur. Génial, c'est un, ouais. Nous sommes face à un radio professionnel.
Ça va, merci Nico.
Et bien, écoute, on est tous les deux très contents parce qu'on reçoit aujourd'hui Colin Fourté. Salut Colin.
Salut à tous.
Alors Colin, tu es l'auteur du ludothèque dédié à Grandia et donc on a profité de ta venue sur Toulouse pour en discuter ensemble. Mais tu es un vieux de la vieille dans l'écriture sur les JRPG. Tu as notamment collaboré au site Legendra, jeuxvideo.com ou Merlan Free. Est-ce que tu te rappelles pour Sœur d'édition, comment est-ce qu'on avait été amené à bosser ensemble sur ton premier ludothèque qui était Valkyrie Profile?
Oui, en fait, vous m'aviez contacté suite à un article que j'avais écrit justement chez Merlan Free et qui portait sur tout ce qui composait en fait le jeu Astral Chain. Ah, oui. À l'époque, qui avait fait un peu de bruit sur notamment le site Pixel Le Monde. Mmh. Donc j'avais essayé de faire une sorte de réponse à ça. Et donc vous m'aviez contacté justement pour prendre contact pour l'écriture possiblement d'un ludothèque. Alors au départ c'était peut-être plutôt sur un livre complet sur Valkyrie Profile. Ouais. Et puis finalement c'était parti sur le format ludothèque.
C'est vrai, mais et aussi tu es Toulousain, donc ça c'est la plus-value sympathique qu'un cœur de la région. Le petit bonus qui va bien. Donc on va être ensemble pendant à peu près une heure et demie pour discuter de Grandia et on va commencer tout de suite par un peu les origines de la série. Alors Grandia, c'est avant tout l'aventure de deux frères, les frères Miyagi, et qui en 1980 bossent pour la société ASCII. Et au bout de quelques années, ils décident qu'ils en ont marre et qu'ils ont envie de liberté. Et c'est là où ils créent Grandia, Gamars en fait, c'est ça.
C'est ça. En fait, ils sont partis de ASCII parce que à l'époque, la micro-informatique commençait à se démocratiser. Donc eux, ils faisaient un peu de développement. Ils parlaient aussi de micro-informatique sur le magazine ASCII justement. Mm-hmm. Et sauf que ce qu'ils développaient comme jeu, c'était vraiment des petits jeux, éventuellement des logiciels. Et ça ne leur convenait plus. En fait, eux, ils voulaient vraiment faire du gros jeu vidéo et donc avoir un peu plus les mains libres en fait pour le développement. Et donc ils sont partis de ASCII avec quelques collègues.
Oui.
Pour fonder GameArt.
Et d'où le nom GameArt, justement, leur volonté un peu de rendre justice à l'art du jeu vidéo.
C'est ça. En fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment de faire du jeu, enfin, sortir en fait du simple logiciel, mais pour faire vraiment du gros jeu, avoir un peu les moyens de leurs ambitions aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire que Yoichi Miyagi, donc le plus âgé, il était notamment connu pour mettre beaucoup de lui-même dans les jeux, et il avait passé notamment plus d'un an en fait à développer un jeu de mahjong en faisant comme une intelligence artificielle, mais quasiment à la main, quoi.
Ouais.
Donc à l'époque, c'était vraiment un fou furieux. Et voilà, donc c'est ce qu'ils voulaient refaire chez GameArt en fait.
Mais enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais cette idée de élever le jeu en tant qu'art, machin, on parle de 1985, donc c'est quand même très avant-gardiste.
J'avais un an. Donc oui, de toute façon, ils étaient un peu précurseurs de ce qu'on allait imaginer vers la direction qu'allait prendre le jeu vidéo. Merci quelque part. Donc GameArt aussi, ils ont quand même une autre passion en plus du jeu vidéo, c'est l'animation en fait. Et ils ont voulu intégrer tout de suite un peu l'animation dans leur jeu vidéo. Quoi.
Voilà. Alors pas de suite après la création, parce qu'ils ont plutôt fait des petits jeux, enfin qui avaient quand même une bonne presse, dont Texter. Alors je saurais pas vous dire exactement ce que c'est, mais c'est des jeux traditionnels, on va dire. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit tiens, on va peut-être s'allier les compétences en animation de gens comme la Gainax par exemple,
qu'on donc, connaît pour Evangelion,
c'est ça. Alors qui à l'époque n'avait pas encore fait Evangelion, mais ils ont fait plusieurs jeux avec ces gens-là et notamment pour leur jeu suivant qui allait être leur fer de lance en fait. Ils ont pris plusieurs gens de Gainax en fait pour faire vraiment le ce qui va s'appeler Lunar. Mm-hmm. Qui va allier l'animation à du RPG.
En fait. À cette époque-là, en fait, on était quoi, au début des années 90, en fait, ils venaient de sortir, enfin, la Gainax venait de sortir Nadia et le secret de l'eau bleue.
C'est ça.
C'était vraiment l'esprit d'aventure qu'aussi recherchaient peut-être dans leur création.
Exactement, et dont on reparlera peut-être un peu plus tard pour Grandia.
Nadia, le secret de l'eau bleue aussi, un médiathèque sort d'édition, hein, on le rappelle. Il y a aussi quelque chose, une connivence technologique qui fait que l'animation peut s'intégrer au jeu vidéo de manière un peu plus harmonieuse, c'est l'arrivée du CD-ROM, en fait. Et on sait que GameArt, ils ont eu des liens assez forts avec Sega, notamment avec l'arrivée du Mega CD.
Oui, en fait, le Mega CD, donc c'était une sorte de hardware qui se greffait à la Mega Drive et qui permettait en fait de disposer de beaucoup plus de mémoire en fait pour faire de l'animation et également de l'audio, c'est-à-dire d'avoir vraiment des musiques éventuellement orchestrales sur le CD qui accompagnait le jeu.
Oui.
Et donc, en fait, voilà, ça va leur permettre d'allier des grandes séquences cinématiques, d'avoir également des voix. Donc ça, c'était pas encore très courant à l'époque. Il y avait quelques jeux qui avaient commencé à le faire. Il y avait aussi des voix digitalisées, mais qui n'étaient pas de très bonne qualité. Et donc là, en fait, pour Lunar, ils vont avoir toute une équipe d'acteurs vocaux, en fait, qui vont venir enregistrer des voix.
Et à chaque fois, souvent des grands noms du doublage, du monde de l'animation.
Voilà,
les Seiyuu, comme on dit, hein, exactement. Donc, t'en parlais, hein, Lunar the Silver Star, la première incursion de Game Arts dans le monde du JRPG. C'est un jeu que vous avez fait tous les deux. Enfin, je sais que vous êtes très fan de JRPG, Damien.
Merci de m'envoyer sous le bus. Non, je n'ai pas fait Lunar.
C'est juste une question
innocente.
Non,
mais c'est vrai que je me rappelle les tests à l'époque, ou enfin les dossiers qui revenaient sur Lunar, notamment dans Gameplay RPG, ça me fascinait. Je te disais, ça avait l'air trop bien. Mais j'ai jamais pris le temps de me lancer dedans, alors que j'adore Grandia. Je devrais peut-être un jour faire des.
C'est peut-être l'occasion.
Moi, j'avais fait Lunar parce qu'il y a eu un remake qui est sorti sur PSP il y a une dizaine d'années.
Ouais.
Un peu plus de 10 ans d'ailleurs, peut-être 13 ou 14. Et donc voilà, ça permettait de refaire le jeu avec des meilleurs graphismes. Et puis.
Et c'est conseillé parce que chez Grandia, cette aura évidemment de grands JRPG, mais Lunar aussi, c'est quand même quelque chose qui est reconnu aujourd'hui.
Oui, bah, surtout chez Sega en fait, puisque donc, bon, Sega, c'est pas les plus connus en termes de grandes séries qui continuent actuellement. Bon, il y avait les Shining Force quand même,
Fantasy
Star, hein, mais donc Lunar, c'était à l'époque en tout cas une des grandes séries de Sega, et en fait ça a permis aussi à Game Arts quasiment de participer à la création des consoles, en fait, puisque à l'époque c'était eux qui avaient peut-être les plus gros besoins en fait de technique, et donc ils ont vraiment participé à faire les spécifications non seulement du Sega CD et également de la Saturn ensuite par la suite.
De là à dire qu'ils étaient de mauvais conseils peut-être, je ne sais pas. En tout cas, bah, c'est vrai qu'ils étaient consultés par Sega, il y a vraiment une forte entente entre les deux. Alors tu as dit, après ces premiers pas, ben bah, là ils vont avoir la volonté de faire un autre jeu, un autre JRPG, et d'aller encore plus loin, de faire encore mieux. Et le nom de code de ce projet, c'est The Frontiers. Et dès ce nom de code, en fait, on comprend leur désir de créer une grande aventure, de créer un grand voyage. C'est vraiment ça l'idée de base, quoi.
Voilà, donc ils voulaient faire quelque chose qui. Parce que Lunar, c'est quand même un jeu qui est. Bon, il y a un grand empire qui veut envahir le monde. Vous avez des déesses, des réincarnations de déesses, ainsi de suite. Donc c'est quand même un jeu qui est relativement traditionnel et pas très original. Mais qui va avoir besoin, en fait. Enfin, eux, leur besoin, c'est de faire quelque chose de plus lumineux, plus exotique et qui repose vraiment sur le voyage. Et donc, au départ, un de leurs concepts, ça va être de séparer, en fait, le monde du jeu en deux par un grand mur.
Ouais.
Donc, d'où le nom La Frontière.
Sorte de muraille de Chine, en fait, qui ferait tout le tour de la Terre, quoi.
C'est ça.
Et donc, ce nom aussi, qui va venir un peu plus tard dans le développement, Grandia. Alors là, l'étymologie du nom, elle est un peu mystérieuse, mais oui. Toi, t'avais trouvé un indice, peut-être, qui pourrait renseigner sur ce qu'il voulait dire comme sentiment. Et je trouve qu'il est assez mignon, quoi.
En fait, quand on regarde les sources que donnent les créateurs du jeu pour les rares interviews qu'ils ont consenties, donc, il y a beaucoup de storytelling, en fait, autour du nom du jeu, et aucune qui me satisfaisait. Et donc, à l'occasion du Ludothèque, j'ai essayé de décortiquer un peu tout ça, et puis j'avais trouvé justement des croquis préparatoires pour le jeu, et dont un storyboard en fait de la séquence d'ouverture du jeu, c'est-à-dire tout le prélude où on voit le nom du jeu apparaître au-dessus de la ville de Parme.
Oui.
Et en fait, dans le storyboard, c'est pas Grandia qui est marqué, mais Grandir en fait en français dans le texte, donc avec un R à la fin. Et moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même une sorte de leitmotiv qui est utilisé dans tout le jeu, en fait, qui va évoquer en fait tout ce que veut dire le jeu, c'est-à-dire faire grandir ces personnages qui sont au départ en fait vraiment des gamins, voire des enfants, hein,
ouais.
Et qui vont voilà par l'aventure, par la curiosité et par les pérégrinations qu'ils vont vivre. Réussir à évoluer, en fait.
Ben, carrément, c'est vrai que ça semble super à propos.
Ça n'a rien à voir avec la Formule 1, du coup.
Ça n'a rien à voir avec la Formule 1. Il y a une autre légende urbaine qui circule.
Non, mais c'était
hein.
Pas une légende urbaine. C'était ce qui était indiqué en interview. En tout cas, ça avait été traduit comme ça sur l'interview qu'on peut trouver dans sur Je me plaisonne, là. Mais c'est vrai que ça parle de. Peut-être le Grand Prix, je sais pas, mais
la traduction n'aide pas, mais en fait, il parlait des véhicules de grand tourisme. Éventuellement, moi, j'avais peut-être une idée sur le grand tour. En fait, c'est une sorte de grand voyage qui était effectué je vais probablement dire une connerie, mais au 18e ou 19e siècle, par notamment les grandes familles européennes, aristocratiques, et voilà, qui allaient découvrir le monde. En fait, donc ça s'appelait un grand tour. Mais je pense que ça fait peut-être partie des influences, mais globalement, enfin, le, le
côté grandir, ça semble plus, plus cohérent, plus adapté, voilà. En tout
et
cas.
Et puis, ouais. Ça, en fait, ça leur permettait aussi de mettre une note d'intention sur, en fait, on va faire évoluer le RPG. Ouais.
Et c'est vrai que l'interview dont tu parles, c'est du japonais traduit de l'anglais qu'on peut traduire en français derrière. Donc, forcément, il y a peut-être toujours de la déperdition ou des incompréhensions qui interviennent. En tout cas, ton explication, Colin, moi, je trouve super cool et ça me paraît être plutôt pertinent, quoi. Donc, Grandia, c'est un univers bien particulier. C'est un RPG qui a du style. Et même au terme de la conception de l'histoire, on sait qu'en interne, ça a été une production super chaotique. Hein. Ça a été le bordel tout le temps, quoi.
Oui, alors en fait, c'est une conception de jeu qui a duré quasiment 5 ans. Donc, à l'époque,
c'est dingue pour l'époque. Aujourd'hui, c'est la routine, hein, mais.
Voilà. Et c'est tout simplement parce que, bon, les gens qui dirigent Game Arts, en fait, ils ont beaucoup d'idées. Donc, c'est des gens qui sont perfectionnistes, qui veulent faire beaucoup de choses. Et sauf qu'ils ont peut-être pas le côté très organisé, en fait, qui irait bien avec une production qui serait un long fleuve tranquille.
Ouais, mais ce qui est plutôt logique à l'époque où les développeurs, ils apprenaient encore un peu leur métier, l'organisation d'une équipe de dev, quoi.
Voilà. Et donc, en fait, il y a des interviews où on nous dit que, suite au début de production, donc, bon, les équipes se réunissent, trouvent un peu les concepts, mais par contre, finalement, au bout de 5-6 mois, il y a des gens qui commencent à partir et puis à aller sur d'autres projets. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, il y a encore Lunar numéro 2, en fait, qui est en conception, donc aussi ouais. Chez Game Arts. Donc, ils ont plusieurs jeux à développer en parallèle.
Ouais.
Et donc, au début de la conception, voilà, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent, et donc, notamment deux personnes dont je parle beaucoup dans le livre, qui sont Toshiaki Hontani et également Osamu Kobayashi,
ouais.
Qui sont deux personnalités qui n'appartiennent pas à Game Arts, enfin, qui ne travaillent pas chez eux, mais par contre, qui sont issus du monde de l'animation et qui ont travaillé, donc notamment Toshiaki Hontani, il avait travaillé sur Akira, donc le film, voilà, sur plusieurs séquences. C'est un animateur au départ.
Mm-hmm.
Et donc lui, en fait, il arrive à un moment où ils ont besoin, ils se disent on va faire des scènes animées dans Grandia. Et donc on a besoin de quelqu'un qui puisse concevoir ces scènes animées. Sauf que lui, en fait, il arrive au moment où il n'y a pas encore tout le scénario, tout le scénario du jeu n'est pas encore
arrêté,
écrit. Et donc, en fait, il se retrouve à ne pas pouvoir faire le travail pour lequel il était venu. Et sauf que lui, comme c'est aussi un perfectionniste, un gros bosseur, il s'est dit je vais faire tout le storyboard, en fait, du jeu. Et donc il commence à travailler avec les auteurs du scénario pour écrire ce que ça va être, fixer un peu tous les grands points d'ancrage du jeu. Et il fait tout le storyboard, et c'est des choses que j'ai pu retrouver justement dans le cadre de l'écriture, parce que Toshiaki Hontani a fait un site carrément avec tous les concept arts, les croquis qu'il faisait à l'époque. Donc c'est vraiment des pages de l'époque où il fournait des choses, voilà.
Oui. Ça aussi, c'est une démarche originale.
Ouais, ça se faisait beaucoup dans l'animation. En fait.
Ouais.
Mais c'est quelque chose que lui, il a réussi à transposer, en fait, dans le développement du jeu.
Et c'est lui un peu qui a remis vraiment de l'ordre dans la boutique, un peu. Voilà. Quoi.
Donc,
les
au départ,
autres partaient dans tous les sens, quoi.
C'est ça. Lui, il venait juste en tant que concepteur d'image, en gros. Et puis finalement, il devient quasiment un réalisateur, ouais, au même titre que les
fans. Je crois qu'il est d'ailleurs indiqué en tant que.
Alors ça dépend sur quel crédit, mais oui, en gros, c'est un des réalisateurs du jeu. Ouais. Ouais.
Ça dépend effectivement des crédits. Alors Grandia, c'est que la première fois qu'on y joue, y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est cette approche graphique qui est un peu l'inverse de ce qu'on connaît par exemple pour Final Fantasy VII, donc à savoir des décors 3D et des persos en sprite. Damien, ça te rappelle quelque chose ou pas?
Oui, quelques années après, il y a Xenogears qui a repris exactement la même approche. Il faut savoir, si vous n'avez pas fait Grandia ou même Xenogears, quand on parle de décors en 3D, on peut effectivement bouger la caméra, mais c'était à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on avait en fait une caméra qui peut être déplacée sous quatre angles uniquement. Mmh. Avec les touches L et R, on arrivait et ça basculait d'un angle à l'autre. On peut pas monter la caméra vers le haut, on peut pas la descendre vers le bas. Les angles sont quelque part prédéfinis. Il peut y avoir des effets de mise en scène et tout pendant le jeu. Mais voilà, nous, en termes de il n'y a pas la même liberté dans l'environnement 3D que ce qu'on a aujourd'hui. Et ça entraînait d'ailleurs certains problèmes de lisibilité. Dans lui comme dans Xenogears, quand il y avait un peu des villages assez touffus ou des trucs comme ça, on se retrouve justement à devoir à chaque fois constamment peut tourner la caméra pour pouvoir voir dans les angles, etc. Donc c'est pas toujours évident, mais c'est une approche qui était, qui a son charme, qui permettait de faire des choses en matière de mise en scène qui n'étaient pas possibles avec des décors fixes comme dans les Final Fantasy d'époque. Et puis surtout, ça permettait aussi d'affirmer Game Arts comme,
des pros de la technique.
Non, mais au-delà des problèmes techniques, c'est des gens qui n'ont pas envie de faire comme le voisin. Mmh. C'est-à-dire que tu as FF7 qui avait tout explosé, mais eux, derrière, ils avaient au contraire une envie de faire
de proposer une approche différente. Donc c'est intéressant aussi. Quoi.
Toi, Colin, cette approche graphique, c'est quelque chose qui t'a parlé quand t'as vu des vidéos sur Grandia, qui t'a donné envie d'aller explorer ce monde ?
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le point de vue de Game Arts là-dessus, c'était plutôt de mettre le personnage en fait au centre de la mise en scène et de l'image. Et donc, effectivement, quand on regarde aujourd'hui les assets graphiques donc des décors, en fait, c'est très pauvre, ça a beaucoup vieilli, et notamment dans les séquences de combat où les textures sont vraiment assez moches, on va dire. Par contre, au niveau des personnages, donc c'est des personnages qui sont en sprite et qui sont par contre dessinés en fait sur 8 faces. Donc pour les diagonales et puis les devant, derrière, ainsi de suite. Donc ils sont très détaillés, même malgré les pixels, en fait, qui sont très détaillés pour l'époque. Et ça leur a permis aussi de faire énormément d'animations sur les sprites directement, donc ils sont très expressives. Oui. Et également de développer beaucoup de portraits de personnages. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important dans le jeu, c'est les portraits de personnages qui vont changer au gré des dialogues.
Bah, c'est tout un délire dans les jeux japonais d'avoir ces portraits expressifs des persos et de décliner les émotions.
C'est pas systématique, mais c'est vrai que là...
Mais à l'époque, c'était pas vraiment le cas. Ouais. Et, alors, j'ai pas trop le souvenir que ça soit aussi poussé dans Xenogears, par exemple, qui est pourtant sorti 3 mois plus tard.
Xenogears, il y a beaucoup moins de variantes. Mais après, il y a beaucoup plus de personnages aussi. Donc je pense qu'ils avaient pas la possibilité de faire autant de portraits, mais oui, c'est vrai que c'était assez vraiment poussé dans Grandia là-dessus. Mais
disons, si on prend les trois personnages principaux de Grandia, ils ont plus de 20 expressions faciales en fait qui vont apparaître.
Hier, je crois qu'on doit être à 2 ou 3 par personnage.
Voilà. Donc c'est vraiment une volonté de faire du dessin animé, mais dans lequel nous faisons nous-mêmes passer les dialogues. Et voilà, donc ça donne quand même un côté très cartoon en fait dans certains passages du jeu. Et moi, je me souviens notamment d'un passage où les deux héros principaux qui sont Justin et Fina sont catapultés en fait, littéralement catapultés dans les airs, et où ils se parlent. Donc il y a Fina qui est quasiment assise en l'air et Justin qui est tête en bas, et donc son portrait aussi tête en bas. Et donc c'est très Bip Bip et Coyote en fait dans l'esprit quoi.
Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette volonté, mais comme tu l'as dit, d'appuyer le côté animé, le côté avec des voix, donc vraiment d'avoir l'impression de vivre une sorte de shonen interactif quoi, quelque part.
Oui, c'est un peu ça. Alors ils ont de la même manière que pour Lunar, en fait, ils ont repris des seiyuu qui sont venus faire du gros boulot sur l'animation. Alors ils sont plus ou moins connus. Alors celle qui fait Justin, donc c'est une femme évidemment, qui n'était pas très connue, mais qui avait quand même fait un animé sur un RPG en fait, version animée. Okay. Les autres sont quand même des grands noms de l'animation qui ont travaillé notamment sur Ranma 1/2 ou qui avaient aussi fait Lunar. Justement, donc ils ont repris pas mal de seiyuu entre les deux jeux.
Juste pour préciser, si vous n'êtes pas familier du monde de l'animation japonaise, ce genre de truc, par rapport à ta phrase, c'est vrai que très souvent ce sont des doubleurs qui s'occupent
des héros, des jeunes héros, garçons.
Des garçons, ouais. Enfants ou adolescents, ou même adultes, hein, dans le cas de Goku, puisque
il a gardé sa doubleuse. Mais c'est vrai que oui, Luffy, Naruto, enfin tous les héros que vous connaissez, ce sont souvent des doubleuses qui font leur voix, quoi. Alors là, évidemment, on est là pour donner envie aux gens de s'intéresser à ton bouquin, donc on va survoler un petit peu la création. Il y a plein de détails en plus que tu racontes dans le livre. Il y a quand même, je trouve, un petit truc qui était intéressant, c'est le fameux réseau GDNet. Donc c'est une alliance de studios en fait qui font des game art. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Je trouve que c'est assez là aussi précurseur.
Oui, alors il faut comprendre qu'à l'époque, donc le développement de jeux, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est très coûteux et qui techniquement est assez compliqué. Donc le problème, c'est que là, on est à une époque où, notamment avec l'arrivée de la PlayStation, de la Saturn, et puis ensuite de techniques qui évoluent rapidement et qui mettent un gros stress en fait financier et technique sur les équipes de développement. Et donc là, ce qui a été décidé par plusieurs développeurs japonais qui ne voulaient plus en fait être dépendants de gros studios, de gros éditeurs, ils ont décidé de créer ce réseau de développeurs, donc GDNet, c'est Game Developer Network, et qui leur permettait en fait de rationaliser un peu ce côté, ben on va mettre les techniques en commun, éventuellement pouvoir parler plus librement, et puis également créer un éditeur indépendant en gros qui va s'appeler ESP et qui va éditer donc Grandia, donc la première édition de Grandia qui sort sur Saturn est éditée par ESP. Uniquement au Japon, par contre.
Bah, c'est presque comme un syndicat, on pourrait parler aujourd'hui, et c'est vrai que la volonté là de s'émanciper du contrôle d'un éditeur. Donc tu l'as dit, le jeu sort sur Saturn à la base. c'est pas forcément la plateforme qui était le plus en forme au moment de la sortie, et donc non. Il va arriver très vite sur PlayStation derrière, quoi.
En fait, il faut comprendre que le développement, il a duré quasiment 5 ans. En fait, eux, ils ont développé sur Saturn au moment où elle était en pleine bourre, on va dire. Il y avait beaucoup d'espoir qui était fondé à la Saturn, et notamment par Sega. Et donc, le problème, c'est que lorsque Grandia sort enfin, en fait, on est quasiment sur la fin de production de la Saturn. Final Fantasy VII est déjà sorti, donc ça impose en fait la PlayStation comme un des grands systèmes du futur pour les RPG. Et à côté de ça, ben, la Saturn est en perte de vitesse, donc Grandia ne peut pas relancer en fait la console, alors que c'était pressenti pour ça aussi. Et du coup, ben, Grandia ne sort jamais en fait du Japon à l'époque sur Saturn. Par contre, derrière, il y a quand même la volonté de sortir Grandia de l'archipel nippon, et donc ils vont le sortir sur PlayStation, donc 2 ans plus tard, donc en 99. Et cette fois-ci, par contre, ça va sortir du Japon. Alors en Europe, c'est édité par Ubisoft, en 2 mots à l'époque.
C'est vrai, c'est vrai.
Et voilà, donc moi à l'époque j'y avais joué notamment sur une version un peu Platinum qui s'appelait Ubisoft Exclusive en fait, qui m'avait attrapé l'œil en fait au passage comme ça d'un score game, j'imagine à l'époque, et ça m'avait beaucoup interpellé, notamment parce que ben, la jaquette c'était pas juste comme à l'époque juste un logo ou ce genre de choses, mais c'était vraiment les personnages en animation qui regardaient vers le lointain.
Ouais, donc c'est déjà évocateur de thématique du jeu.
C'est ça.
Damien, ton premier contact avec Grandia, toi, tu t'en rappelles?
Oui, c'était peu après la sortie en Europe, en fait, tout simplement. J'avais un peu fait le début, mais c'était un ami qui l'avait acheté, en fait, qui m'avait prêté. Mais pour le coup, j'avais pas trop accroché à ce moment-là. Le système de combat, le rendu graphique, je sais pas, ça m'avait pas...
C'était déjà vers l'image de synthèse, toi, t'étais vers le futur.
Moi, j'étais fait 7, 8, 9, tu vois. C'était ouf. Et non, du coup, je l'ai fait finalement quelques années après. Et là, ça a été une bonne claque, comme je l'espère. Enfin, quand il y a eu quelqu'un qui m'avait d'ailleurs dit plusieurs fois, mais tu vas aimer, t'inquiète pas, cet esprit d'aventure, je pense que tu t'attends pas jusqu'à quel point ça peut aller loin et tout. Et c'est vrai que quand je me suis lancé dedans avec le bon état d'esprit, ça a été une superbe aventure.
La rubrique chaud-froid, votre rubrique préférée, on le sait, vous nous envoyez des DM à ce sujet. On sait que vous aimez ça, non, c'est pas vrai, mais bon, c'est pas grave.
C'est à la bouche, la préférée.
Colin, ben, la question traditionnelle, un petit peu rituel des serres d'émission, on va te demander ben, ce que tu préfères dans Grandia et ce que tu aimes le moins. Tu veux commencer par quoi? Ce que tu préfères, ce que tu aimes le moins?
Alors, ce que je préfère, moi, ça va être vraiment le sentiment d'évolution, alors non seulement des personnages, mais aussi, en fait, qui passe par le gameplay pour le joueur. C'est-à-dire que le système de combat et surtout le système d'évolution des personnages est ainsi fait. On gagne de l'expérience en fait pour toute action qu'on va effectuer. Et ce qui fait que petit à petit, en utilisant des sorts de feu, on va être de plus en plus
compétent dans le domaine du feu,
à utiliser du feu. On va gagner des techniques de feu. Et puis voilà, petit à petit, quand on va utiliser par exemple des techniques de vent, ben, elles vont se mêler à des techniques de feu et créer des sorts de foudre notamment. Donc c'est quelque chose qui a été réutilisé dans les suites de Grandia, mais qui était un peu inédit à l'époque, je trouve. Voilà. Donc ça nous permettait en fait de créer un peu des personnages, des builds de personnages en fait, comme on dit aujourd'hui, qui nous ressemble, voilà, donc en utilisant beaucoup de sorts de...
C'était un pyromane, tu utilises beaucoup de feu.
Voilà, et puis surtout, par exemple, en utilisant des sorts de vent, petit à petit, on devient de plus en plus rapide, donc nos personnages vont pouvoir agir. Et donc, bon, on expliquera peut-être un peu plus tard le système de combat, mais du coup, c'est très important, comme ça, de pouvoir se créer son propre build, et vraiment, on commence à apprécier l'évolution. Il y a un peu aussi de côté grinding, c'est-à-dire dans Grandia, qui peut être un peu usant si on le fait un peu n'importe comment, mais une fois qu'on comprend en fait la mécanique de jeu, ben on arrive vraiment à se l'approprier.
Donc c'est souvent ça Grandia, c'est quelque chose qui apparaît classique, un peu déjà vu, mais finalement qui réussit à avoir vraiment une spécificité particulière. Et du coup, ben, ce que tu aimes le moins dans Grandia? Alors,
ce que j'aime le moins, on va dire que c'est le fait de ne pas pouvoir revenir en arrière. Alors dans Grandia, c'est dans le premier du nom, c'est pas très très grave parce que ça va très bien finalement avec l'esprit du jeu, c'est-à-dire d'être dans la grande aventure, de ne pas
de
spécialement
repousser les frontières.
Voilà, wink wink. et de ne pas revenir en arrière. Mais par contre, ça veut dire aussi que dès qu'on sort d'un donjon, en gros, on n'y retournera jamais.
Alors, donc, c'est pas grave, de ne pas retourner dans un donjon.
Voilà, bon, les donjons, on aime ou on n'aime pas, mais alors, ça peut poser un problème, notamment sur les œufs de mana. Donc, les œufs de mana, c'est un objet qu'on doit trouver souvent dans des coffres et qui nous permettent de faire évoluer, justement, d'apprendre des éléments à nos personnages. Et donc, si on en loupe un, ça peut nous pénaliser quelques heures.
Oui, puis on sait que les fans de JRPG comme vous êtes un peu toqués, c'est genre faut toujours choper tous les coffres, faut toujours tout trouver.
Ouais.
Donc je peux comprendre la frustration effectivement là-dessus quoi.
Mais finalement c'est pas quelque chose qui est très pénalisant dans le sens où, où finalement il y a suffisamment d'offres de mana dans le jeu pour équiper tout le monde. Et par contre c'est quelque chose qui va beaucoup plus me gêner sur d'autres jeux où notamment Grandia 2 où on peut sauvegarder juste avant le boss final. Donc si jamais on ne peut pas revenir en arrière, on est un peu
l'erreur classique. Voilà. On va rentrer un peu plus en détail dans le corps de Grandia, vraiment dans cet esprit d'aventure qui caractérise la série. On va commencer par une question peut-être un peu classique, hein, mais pourquoi Grandia, est-ce que ça a autant marqué les esprits? On a avant tout cet esprit vraiment bon enfant, cette sensation. Au début, on a des personnages attachants qui n'ont qu'une envie, c'est découvrir le monde. Et je ne sais pas vous si c'est le cas aussi, mais je trouve qu'on s'attache très très vite au perso, surtout que le casting est finalement assez resserré, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, Grandia, c'est un jeu qui essaie de sortir un peu de ce que faisait la concurrence à l'époque, et je pense notamment à Final Fantasy VII, même si finalement ils ont été développés en parallèle. Mais donc là, on est plutôt à une période où on fait des RPG en fait qui vont être très sombres, un peu torturés. FF6 déjà, voilà, avec bon, je vais pas spoiler FF6, mais voilà, donc c'est plutôt des choses où il se passe des grands bouleversements pour le monde. Il y a un grand mal qu'il va falloir aller combattre. Grandia, c'est pas du tout ça. En fait, on est juste un gamin qui s'amuse dans la rue et puis qui à un moment va vouloir aller explorer un peu le monde. Et donc ça dure en fait une bonne partie du jeu, on va dire deux tiers du jeu, et sur de la curiosité. En fait, on veut atteindre un endroit qui n'a jamais été exploré. En fait.
Oui, c'est vraiment la seule motivation du personnage, c'est repousser les limites, découvrir des choses inexplorées. Quoi.
Sur la fin, ça finit par partir en mode JRPG animé, grandiloquent. Mais
ça c'est quelque chose que j'aborde pas mal dans le jeu. Mais en fait, bon, on en parlera plus tard. Il y a plusieurs phases dans Grandia. Et notamment les premières phases, c'est vraiment on est dans de l'aventure pure. Et puis à la fin, ça part en shonen, voilà, très classique où effectivement on retrouve les codes de la Japanimation.
Mais les codes sympas, moi, ils me plaisent ces codes-là.
Oui, mais ils sont moins originaux.
Ouais, c'est moins
original. Damien, toi qui as une âme dark et torturée, hein, c'est peut-être pour ça non que Grandia t'avais peut-être pas convaincu la première fois que tu l'as essayé. Hein.
Je sais pas si j'étais dark et torturé au moment où je l'avais essayé. Si, peut-être déjà. Je regardais déjà Evangelion, je sais plus. Mais non, c'est vrai que c'est un. Mais justement, c'est tout ce qui fait le charme du jeu. C'est-à-dire que ça rentre en contraste. Si on n'avait que des œuvres sombres, torturées, au bout d'un moment, ça serait un peu ennuyeux. Et il faut apporter ce sens du bon enfant. Et tu disais tout à l'heure, casting resserré, côté attachant. Et il passe par plein de petits détails qui sont mis en place dès le début du jeu. Et l'un des aspects, moi, qui m'a le plus marqué, je ne sais pas si on peut en parler maintenant ou.
Oui, vas-y, on s'adaptera.
C'était les repas.
Oui.
Détail tout bête, hein, mais c'est que dans le jeu, à plusieurs reprises, on se retrouve à faire des repas où on est à table avec d'autres personnages et on choisit à qui parler. Avec le petit curseur dans mes souvenirs, on discute tout simplement et ça crée des moments de vie.
De convivialité.
De convivialité où on est dans un bon esprit avec ces personnages-là. Et je suis content d'avoir retrouvé ça dans des jeux bien plus tard, dans des JRPG. Mais c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. En fait, c'est souvent, on oublie en tout cas pendant un temps, le JRPG oubliait de trouver les moments qui vont consolider quelque part.
FF15 l'a fait quelque part aussi et c'était partie des points positifs du jeu.
Absolument, et encore une fois, FF15 est aussi un jeu avec un casting très resserré. On a que quatre personnages, là c'est un peu pareil. Et je trouve que voilà, le repas, c'est un bon moyen d'apporter cette dynamique, surtout d'avoir ce côté un petit peu interactif dans Grandir dans le repas où justement tu vas choisir avec qui parler, dans quel ordre. Je crois que tu as même des réponses, des petits choix parfois qui sont
très peu. En fait,
c'est très léger, mais très succinct, mais ça suffit pour apporter cette interactivité qui nous immerge autant plus.
Ouais, c'est vrai qu'on n'apprend jamais des choses passionnantes et comme tu dis, les choix, les deux réponses ne servent à rien, mais moi je me surprenais systématiquement à chaque fois aller parler à tout le monde, faire un peu le tour. Et au-delà des repas, on a aussi ces scènes de bivouac, là, c'est le repas dans la nature avec la scène un peu de camping.
À la belle étoile, on dort dans un tipi, ainsi de suite. Alors c'est vrai que les séquences de repas, en fait, c'est quelque chose qui est un artifice narratif, en fait, qui marche très bien, mais qui, en fait, si tu le décortiques, c'est juste dérouler des dialogues.
Bien sûr.
Mais n'empêche que ça marche très bien. Ça donne un côté très attachant au jeu et puis un peu original aussi. Alors, il y a quelque chose dont tu parlais tout à l'heure, c'est que la première fois que tu l'avais fait, ça t'avait pas accroché, en fait, le jeu. Il y a peut-être une explication à ça, c'est quand même qu'on joue des personnages qui sont très jeunes, oui. Et notamment la première séquence du jeu, c'est vraiment un gamin qui est en train de jouer au héros, en fait, avec oui. ses copains dans la rue. Donc, si toi, tu commences à être adolescent, tu te dis non, moi, j'ai quand même envie d'être un adulte, ouais, ça peut dérouter un peu. Et puis finalement, quand tu reviens, tu te dis ah, ben, c'est quand même vachement attachant, c'est original. Et ça a été fait quasiment nulle part.
Oui, et puis cette sentiment de liberté, en fait, que tu as, qui est associé à l'enfance et à la découverte et au jeu que tu fais enfant quand tu t'inventes. L'imaginaire, bah c'est un sentiment qui est très bien retranscrit par le jeu et qu'on prend plaisir à retrouver même quand on est adulte après. Du coup, justement, ouais. c'est quelque chose qu'on a un peu perdu de vue et du coup, retrouver cette fraîcheur, cette innocence et cette envie d'aventure, de liberté, bah, le jeu le fait très bien.
Et je trouve que c'est fort aussi, c'est que ça s'incarne dans le héros, donc le personnage de Justin qui avait tout pour être un perso super relou. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais oui. finalement qui est attachant en fait. Quoi. Oui. Parce que c'est un peu un Naruto qui est toujours allé, on y va, à la bonne humeur et tout. Et en fait,
là, les fans de Naruto
on
arrivent.
S'y attache.
Non, mais c'est vrai que c'est un personnage qui est à la fois naïf, donc assez shonen en fait dans l'esprit. Bon, on pensait à Dragon Ball, Goku qui est vraiment un peu comme oui. ça, hyper naïf en fait, mais aussi très curieux et qui a pas forcément les codes. Et Justin, c'est un peu pareil, lui il fait un peu les 400 coups, il se fait chahuter par sa mère, il se prend des coups de poils au début du jeu, donc ça c'est pareil, c'est très cartoon. Et en même temps, lui en fait, il est surtout hyper curieux de tout. Et il veut découvrir le monde, en fait. Et du coup, en fait, c'est très lié à quelque chose que j'ai voulu expliquer, en fait, dans le décryptage du livre, qui était ben, en quoi ça se sert des romans d'aventure des 18e et 19e siècles, et surtout des romans initiatiques également, qui sont très liés et qui font partie, en fait, de la littérature jeunesse,
oui.
Qui était quelque chose qui se développait à l'époque et qui a énormément influencé, en fait, tout l'imaginaire collectif. Alors, non seulement occidental, mais également japonais, puisque en fait, les grands romans de ce style, on pense à Jules Verne, à Mark Twain pour Tom Sawyer et Huckleberry Finn, ce sont des choses qui sont arrivées en fait au Japon assez tôt dans leur vie, et ça a été partiellement traduit en fait et adapté pour le public japonais dès la restauration de Meiji en fait, donc en 1868, enfin, ou dans ces années-là, quoi. Donc c'est quelque chose qui finalement a aussi beaucoup influencé l'imaginaire collectif japonais, et donc c'est comme ça qu'on se retrouve finalement avec des œuvres de fiction, que ce soit des films, des animés, des mangas ou des jeux vidéo qui contiennent en fait tout ça.
Bah pour faire le lien avec ce qu'on disait pendant la création de Grandia, c'est que Nadia, le secret de l'eau bleue, donc de Gainax, est justement très inspirée des écrits de Jules Verne, et qui est un projet à la base initié par Hayao Miyazaki, et qui lui-même a fait son Nadia avec le château dans le ciel, et qui est aussi, pareil, très, très sous influence vernienne prononcée.
Ouais, mais c'est vrai que dans Grandia et dans Médiathèque Nadia, il y a une ou deux pages qui vont évoquer les mêmes choses, les mêmes sources d'inspiration. Notamment, alors là, je te fais un piège un peu, parce que je suis pas sûr que tu vas te rappeler du nom, mais cette émission qui passait à la télé, qui voulait un peu populariser bah, les grands contes, qui était à destination des enfants, et qui avait un côté pédagogique pour expliquer les grandes aventures, tout
alors,
ça.
Alors, c'était pas vraiment des émissions, en fait, c'est des dessins animés, donc oui. De la Nippon TV, il me semble, Nippon Animation, qui s'appelle World Theater quelque chose. Voilà, et donc nous, on avait traduit ça dans le livre, en fait, Théâtre des Merveilles du Monde, quelque chose comme ça. Et donc, c'est ben, en fait, tous les dessins animés qui sont issus d'œuvres jeunesse, donc que ça soit Tom Sawyer à l'époque, voilà, bon, Nadia, c'est autre chose, mais à l'époque, voilà, il y avait Rémi sans famille, tout ça. Donc tout ça, en fait, c'est issu de romans destinés à la jeunesse au départ. Et c'est des choses qui se retrouvent finalement beaucoup dans Grandia. Et...
J'ai un peu oublié l'histoire de Grandia, moi, mais Fina n'a pas un pendentif. Non, elle n'a pas de pendentif.
Alors, en fait, Fina, c'est un personnage qui...
C'est le héros qui a un pendentif.
Non, c'est le héros, il a une pierre d'esprit,
oui.
en fait.
Oui. Voilà.
Fina, bon, par contre...
Mais elle vient quand même d'une ancienne civilisation.
Voilà, on va un peu spoiler. Effectivement, il y a tout un truc sur une ancienne civilisation, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais par contre, effectivement, ça commence... Ben, en fait, Fina, c'est un personnage qui est hyper positif, et oui. surtout à l'époque, moi, je ne connaissais pas d'autres comme elle. C'est-à-dire que c'est considéré comme la meilleure aventurière du monde connu, et pourtant c'est une femme, donc voilà, il y avait tout un truc à l'époque qui a été vachement, je pense, jouissif en fait pour les joueurs et les joueuses. Et voilà, mais ça reste effectivement un personnage qui est fort, mais qui retombe un peu vers la fin du jeu sur le schéma classique de l'héritière de la civilisation disparue.
Après, c'était pas si classique que ça. C'est vrai qu'on a souvent tendance aujourd'hui, avec 30 ans de récits de ce style-là, on est devenu habitué, mais c'était pas non plus un cliché extrêmement répandu encore à ce moment-là.
Ouais.
Justement, c'était dans Nadia, par exemple, mais c'était à l'époque de Nadia, c'était un peu frais.
Il y a énormément de recoupement qu'on peut faire entre Nadia et Grandia, et également avec d'autres dessins animés. Livre, je parle des Mystérieuses Cités d'Or, où on est comme ça dans une esthétique un peu précolombienne. Il y a effectivement des héritiers d'une civilisation disparue, il y a pendentif, il y a tout ce qu'on retrouve finalement dans
Nadia. C'est japonais.
Et donc cette sensation de grande aventure, tu l'as dit, inspirée par la littérature, comment est-ce qu'on la retrouve dans le jeu en termes de construction ? C'est vrai qu'on a cette notion de périple où on va croiser par exemple des nouveaux personnages qui vont nous accompagner juste pour un temps donné avant de nous laisser continuer.
Alors il y a plusieurs choses. Alors il y a deux choses qui se complètent en fait. C'est donc d'une part en fait les romans d'aventure et d'autre part les romans initiatiques qui sont souvent liés en fait les uns avec les autres. Mmh. Alors pour le côté roman d'aventure, c'est tout simplement l'ode à l'aventure que représente Grandia. Ça va également passer par des pérégrinations qui vont permettre de faire avancer l'intrigue, mais globalement ça va pas énormément agir sur le game design. J'en parlais dans le jeu, en fait, comme on ne peut pas revenir en arrière, ça a des vocations qui sont non seulement narratives, c'est-à-dire que nous, on est dans un grand voyage, on ne va pas évidemment revenir en arrière, donc notamment il y a le passage du mur, donc du grand mur dont on parlait plus tôt. Évidemment, c'est un passage qui se fait sans retour quasiment, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, et puis on ne va pas le refranchir, on a déjà eu du mal à le gravir la première fois, on ne va pas le refranchir en arrière. Et à côté de ça, il y a aussi une vocation qui est plus technique, puisque donc Grandia, c'est un jeu qui est relativement bavard. On va pouvoir parler en fait à tous les PNJ qu'on croise dans le jeu, et donc il faut pas qu'on puisse revenir en arrière pour reparler à tous ces gens et donc réécrire des lignes de dialogue.
Oui, ça aurait été une contrainte relou.
Voilà, ça aurait été une contrainte relou. Par contre, maintenant sur l'aspect initiatique, ça c'est beaucoup plus présent en fait dans le jeu, puisque ça va passer, donc comme je le disais plus tôt, par le système de combat, donc qui est vraiment dans ce côté expérience en fait. On va gagner en maturité et également qui va permettre en fait à chaque étape du récit de faire comprendre quelque chose aux différents héros. Et donc pour les héros principaux, donc on va un peu les présenter. Il y a Justin, donc qui est le héros principal, qui est un jeune adolescent en fait de 14 ans on va dire au début de l'aventure, et qui globalement lui c'est un peu il a conscience de rien, il est pas du tout responsable, il est impulsif, donc il va avoir tendance à se mettre dans l'embarras à chaque fois en réagissant un peu vite. À côté de ça, il y a Fina, donc qui elle est une aventurière accomplie et qui elle donc va plutôt être d'un côté, elle lâche pas ses prises en fait. Et donc petit à petit, au cours du jeu, elle va apprendre à plus faire confiance aux autres, éventuellement que c'est pas forcément positif de laisser tomber quelqu'un juste parce que c'est le côté adulte en fait à avoir. Et ensuite il y a Sue qui est une petite fille qui est très importante en fait dans le récit, puisque elle c'est vraiment le côté petite fille donc qui veut tout faire comme les adultes, et puis qui va s'apercevoir petit à petit qu'en fait elle ne peut pas continuer et qu'il faut vraiment qu'elle revienne dans sa vie de petite fille.
Ouais, mais qui est par plein d'aspects plus mature finalement que Justine.
Quasiment, et puis c'est quelque chose du coup qu'elle comprend d'elle-même en devenant de plus en plus fatiguée au cours de l'aventure. Et donc c'est une réalisation en fait que finalement il faut aussi écouter son côté enfant. Donc on a là trois personnages qui représentent des facettes différentes de l'évolution de l'enfant à l'adulte. Et qui eux-mêmes vont évoluer comme ça tout au fil de l'aventure.
Et après, on va croiser d'autres persos là aussi qui vont avoir des rôles un peu de guide ou de pygmalion par rapport notamment à Justin.
Voilà.
Avec ce chevalier dont j'ai oublié le nom.
Gadwin,
voilà, qui va justement, la première fois que tu le rencontres, il va te faire une attaque que t'as jamais vue, qui va te détruire la tête. Et puis à la fin, tu vas l'affronter comme un passage de relais et tu vas gagner le droit d'utiliser cette attaque. Ça aussi, je trouve ça très malin comment c'est mis en scène.
Ouais, et alors ça, ça rejoint en fait le côté évolution en fait, puisque donc Gadwin, comme tu l'as dit, la première fois qu'on le voit, il est en fait invincible. Donc lui c'est vraiment un adulte musculeux avec un casque à cornes, une énorme épée, qui va donc à un moment planter son épée dans le sol. Ça va faire une technique vraiment très impressionnante, et on se dit j'ai jamais vu ça même dans un jeu vidéo. Et puis finalement petit à petit on va s'apercevoir que à partir de deux tiers du jeu à peu près, on devient suffisamment fort en fait pour être son égal, c'est-à-dire qu'on va nous-mêmes pouvoir utiliser cette technique. Donc c'est une technique qui adjoint les armes, le feu et la terre. pour faire une sorte de technique ultime. Mmh. Et en fait, petit à petit, on va même réussir à dépasser Gadwin en faisant notre, en fait, cette technique avec une des techniques ultimes de Justin, qui est la taillade tertielle, il me semble, et qui est encore plus impressionnante.
Et c'est là où, du coup, ce personnage va nous laisser, en fait, continuer notre périple tout seul, parce qu'on a atteint maintenant un niveau qui le dépasse là-dessus, et on a souvent ce mécanisme qui revient dans le jeu, quoi, que je trouve plutôt cool, quoi.
Ça. Et donc ça, lui, il représente, en fait, le guide de combat, et puis il va y avoir d'autres personnes qui vont être les guides spirituels, en fait, de Justin et puis des autres également.
Autre inspiration, c'est aussi tout ce qui est lié au mythe, au grand mythe de l'humanité. Et là aussi, ça a eu une influence assez prépondérante dans Grandia. Quoi.
Voilà. Alors, en fait, dans Grandia, il y a plusieurs influences. Alors, je l'ai dit, il y avait le roman jeunesse, avec tout ce qui va être piraterie, qui va être des civilisations mystérieuses qui constituent l'univers du jeu. Et puis il y a quelque chose en fait que j'ai découvert pour le coup en refaisant Grandia avec une lecture un peu analytique pour le bouquin, où je me suis aperçu qu'il y avait toute une lecture qui venait en fait des mythes judéo-chrétiens et notamment des inspirations de la Genèse et puis de l'Apocalypse, ce genre de choses.
Ce qui est devenu là aussi un peu un classique aujourd'hui avec le recul. Quoi.
Voilà, mais alors là c'est vraiment la première fois en fait que j'ai joué au jeu, j'ai pas vu ça du tout. Alors il y avait juste un personnage qui s'appelle Baal, donc ça qui renvoie à une sorte de démon. De diverses mythologies. Et puis en détricotant tout ça, en fait, je me suis aperçu donc il y a également une civilisation qui s'appelle les Icariens. Donc là, on va spoiler un petit peu aussi. Donc les Icariens, en fait, c'est le nom occidental qui a été localisé pour cette civilisation-là. En fait, c'est des sortes d'êtres qui ont des ailes de lumière. Et donc en japonais, c'est être aux ailes de lumière.
D'où la ref à Icar, évidemment.
Voilà, donc la localisation appelait ça les Icariens. En fait, c'est une référence, non pas à la mythologie grecque, mais qui a été retrouvée juste pour la localisation. Mais donc, ces sortes de créatures qui ressemblent beaucoup à des anges, je me suis aperçu que, notamment, Fina, en fait, c'était plutôt un séraphin, en fait. D'où peut-être le nom Séraphina. Donc ça, c'était une de mes trouvailles, peut-être. Alors, je sais pas, il n'y a pas eu de confirmation. Mais n'empêche que si on détricote un peu tout ça, on s'aperçoit que c'est vraiment lié à son personnage et tout au mythe également de l'arbre de vie, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc qui se retrouve dans la Genèse. Et également, petit à petit, en creusant encore plus, donc ça, j'ai pas pu beaucoup en parler dans le livre, mais si vous voulez aller voir, j'ai fait un thread sur Twitter, dont on mettra peut-être le lien. En fait, Fina, elle gagne petit à petit des attaques qui représentent la fin des temps, donc avec une grosse attaque de feu, l'arbre de vie également, donc ça c'est une attaque qui va plutôt être sur du soin, et également une attaque qui permet d'arrêter le temps, et en fait je me suis aperçu que ça représentait l'archange Michael, tout simplement puisque donc elle a ces attaques qui sont liées à la fin des temps, au feu. Et également, c'est quelque chose en fait qui m'a sauté aux yeux quand j'ai écrémé un peu les screenshots que j'avais pris pour le jeu. Il y a vraiment une note d'intention qui est très claire dans le jeu, c'est que au moment du bateau fantôme, en fait, si on regarde dans la cabine du capitaine, on a carrément une image qui prend tout l'écran, où on voit en fait un Icarien donc avec une lance en train de transpercer un dragon. Et évidemment, tout ça c'est directement lié à des représentations de l'archange Michael terrassant Satan, en fait, terrassant le dragon, qu'on peut retrouver dans les arts sacrés, notamment. Bon, j'avais retrouvé une image d'un tympan d'une église de Saint-Michel en Charente, voilà, où il y a exactement la même composition d'image. Donc c'est quelque chose qui est sous-jacent dans le jeu, qu'on ne voit pas beaucoup, mais finalement, en détricotant, on s'aperçoit que c'est très présent, en fait, dans les références, en fait, trouvées par les développeurs.
Ouais. Et moi, j'entends ça, Damien, je me dis, mais pourquoi c'est pas ton jeu préféré de Grandia, du coup?
Peut-être parce que tu l'as pas vu, parce que c'est pas évident, justement, en fait.
Oui, oui.
Quand on y joue normalement, en fait, on ne voit pas ça.
Ouais, mais c'est vrai qu'on parlait d'Evangelion, de Nadia et tout, et c'est vrai que cette époque, on voit que tout se recoupe un petit peu, les inspirations là-dessus, quoi. Alors, on n'a pas le temps de rentrer en détail sur tout le jeu, mais on va quand même évoquer une ou deux scènes cultes, qui sont quand même très très fortes et dont on se souvient sur Grandia, notamment la scène du mur, tu commences à en parler tout à l'heure, donc le monde qui est découpé par ce mur gigantesque, et on va en faire l'ascension. Et là aussi, encore une idée de mise en scène, c'est une ascension qui va durer des plombes. Ouais. Et on a même des moments où on voit les persos pré-abandonnés, en fait, juste avant de se rendre compte qu'ils sont quasiment arrivés. Ça aussi, c'est une scène qui restera en mémoire. Je sais pas si ça vous parle aussi.
Oui, c'est un passage assez éprouvant. En plus, on n'a aucune visibilité parce qu'on voit justement on grimpe un mur. Donc, nous, on a l'horizon qui est complètement bouché. On a une tension qui est croissante avec la musique aussi qui évolue au fil des différents niveaux. On se dit quand est-ce qu'on va en voir le bout de ce mur. Et le truc, c'est que ça contraste du coup avec le moment où on finit par arriver en haut du mur. On a cette vision, cet horizon incroyable. On se dit ça y est, c'est une terre inconnue parce qu'au-delà du fait que nous-mêmes, on arrive à ce bout de l'aventure, c'est qu'à ce niveau-là, tous ceux de la civilisation qui est après, avant le mur, personne ne connaît. C'est une terra incognita. Quoi.
Ouais. Donc c'est le bout du monde. Ils appellent ça le bout du monde.
Ils appellent ça le bout du monde. Donc on est vraiment. Alors qu'en vrai, il y a encore plein de choses derrière, mais c'est qu'on est sur cet horizon, cet inconnu. Et ça crée une nouvelle dynamique encore dans l'aventure. Donc la musique est extraordinaire à ce moment aussi. Donc ouais, ça fait plein de choses qui en font un moment très très marquant.
Colin, tu en as fait un fond d'écran aussi de cette séquence.
Alors évidemment, et puis en fait c'est une séquence au moment où on arrive sur le sommet du mur qui met en fait en jeu quelque chose qui est très original dans le jeu, c'est les panoramas en fait, qui m'obsède. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments du jeu où nos personnages vont surplomber en fait le paysage et s'apercevoir que c'est à perte de vue. Alors il y a notamment un moment dans la forêt où il y a comme ça la brume qui se lève sur le paysage. Il y a le moment au sommet du mur où finalement nous on pensait arriver justement au bout du monde comme tu dis. Alors c'est quand même un peu la découverte de l'Amérique, c'est-à-dire on découvre qu'il y a quelque chose au-delà en fait de l'océan par exemple.
Et habité avec des civilisations déjà existantes.
Voilà, il y a des choses qui existent finalement. En fait, il y a tout un autre monde qui nous attend à découvrir. Et moi, ça, en fait, ça me fait une sorte de vertige. Donc, dans le livre, je parlais notamment du Wanderlust, qui est un peu de cette référence aux voyageurs surplombant une mer de nuages.
Célèbre peinture de Caspar Friedrich.
Et qui est très marquant. En fait, c'est des moments du jeu qui sont hyper marquants. Il y a un moment aussi où on est face à la mer. Donc, pas de référence.
Non, pas de chanson.
Calogero, si tu nous écoutes. Autre moment inculte, tu voulais continuer?
Non, non.
Le départ de Sou, là aussi, t'en parlais. Donc, imaginez-vous, vous êtes dans FF7, vous êtes avec votre team de perso comme Iris, et à un moment, à la moitié du jeu, Iris vous dit, tiens, je me rends compte que je suis fatigué, mais je vais arrêter l'aventure. Donc,
c'est un peu
un gros coup de barre. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est marquant. Et enfin, je veux pas, c'est peut-être du jamais vu, donc c'est le perso lui-même qui se rend compte qu'il va arrêter l'aventure, quoi.
Alors, c'est probablement pas du jamais vu, parce que mais la façon dont c'est fait, oui, c'est un peu, c'est pas l'armoire. En fait, c'est une réalisation en fait qu'il va falloir lâcher prise à ce niveau-là.
Et puis, c'est une gamine de 8 ans qui t'explique ça, donc ça a quand même ce
c'est
côté.
C'est ça, et puis qui en fait son corps ne suit plus, avec une énorme musique en plus qui est vraiment.
Et c'est même, on le ressent en amont, parce que c'est construit peut-être quelques minutes avant où tu sens qu'elle traîne un peu la patte dans les derniers temps. Et même au niveau de ses stats, je crois qu'elle augmente beaucoup moins ses stats à ce moment-là de l'aventure.
En fait, au début du jeu, ça va plutôt être une soigneuse au début du jeu, Sou. Et puis petit à petit, on s'aperçoit qu'elle n'a pas forcément accès à tous les sorts non plus, de feu par exemple, ou de choses comme ça. Et donc, elle est plus tournée vers le support, sauf qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'elle est plus très utile en combat, tout simplement parce que voilà, le personnage n'est pas prévu pour continuer jusqu'au bout, elle n'a pas les attaques ultimes qu'ont Fina et Justin. Et effectivement, comme tu le dis, en fait, c'est teasé un peu dans le jeu où on aperçoit qu'elle devient de plus en plus pâle. Les PNJ, en fait, quand on leur parle, ils disent « Ah, qu'est-ce que t'as, ma petite ? T'as pas l'air bien et tout. » Et au bout d'un moment, en fait, elle s'évanouit carrément dans le jeu. Et puis voilà, on va s'apercevoir qu'elle peut plus continuer, quoi.
Ouais. Un dernier point, on finit cette partie sur la musique. Hein. On sait que Grandia, c'est. Je vais vous laisser parler parce que là, j'y connais rien. Mais apparemment, quelques morceaux sont joués par un orchestre.
Justement, ils auraient profité du support CD à fond. Noriyuki Wadare, donc, qui était aussi déjà le compositeur de Lunar, a rempilé pour Grandia. Il s'est fait plaisir avec des musiques qui ont justement ce vrai sentiment d'aventure et qui ont été jouées pour certaines parties. Hein,
une vingtaine de morceaux. C'est une OST qui est assez pléthorique.
Par un véritable orchestre du coup, donc ce qui fait que la qualité sonore est super. Ils ont réussi en plus à découper les morceaux orchestrés pour justement qu'ils soient intégrés de diverses manières dans certaines phases de l'aventure. Je pense notamment à tout le passage où on est sur le bateau fantôme, où c'est une musique qui est juste justement joué par un orchestre, mais malgré tout, selon si on entre dans la cale ou si on ressort, etc., ils ont réussi à créer une évolution dynamique de la musique où il y a des instruments qui s'ajoutent, des parties de la musique qui sont jouées autrement, etc. Et non, vraiment, bah, la bande originale, elle reste un peu inégale, puisqu'on a quelques morceaux un peu plus anecdotiques et le machin, mais c'est, voilà, elle respire vraiment ce parfum d'aventure qu'on attendait, qui est retranscrit déjà par le jeu lui-même et qui est, je trouve, sublimé par cette musique d'Iwadare. On en a parlé.
Et du coup, voilà, on envoie les gens vers Soundteams.
Voilà,
numéro
vers
2.
Le Soundteams numéro 2, donc le podcast où on décortique la musique de jeux vidéo, et donc le numéro 2 était dédié justement au premier grand air.
Alors, il y a juste une chose dont je voulais parler au niveau de la musique, c'est que, alors, d'une part, en fait, il y a aussi une grande importance des effets sonores.
Oui.
Et donc, tu parlais, par exemple, du bateau pirate. En fait, le bateau pirate, non seulement la musique est évolutive, mais en plus, il y a tous les bruits de la coque qui est en train de craquer. Donc, oui. ça participe énormément à l'ambiance, en fait. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que, donc, j'ai parlé un peu plus tôt dans le jeu de quelqu'un qui venait du monde de l'animation, qui est Osamu Kobayashi.
Oui.
Et lui, en fait, c'est un peu un touche-à-tout. C'est quelqu'un qui adore la musique du monde et qui, en fait, a aussi beaucoup participé avec Noriyuki Iwadare à définir quelles allaient être un peu les couleurs sonores, oui, les instruments. Donc il y a notamment le passage du village de Gumbo, oui, où il y a une sorte de festival un peu comme ça, donc il va avoir des percussions sonores balinaises, en fait, donc qui s'appelle le Kesak, ou bon, je me croyais pas forcément sur la prononciation, mais c'est quelque chose comme ça. Et voilà, donc c'est vraiment des chants scandés et un peu une sorte de transe, en fait, qui se met. Donc ça vient probablement, en fait, de la collaboration entre Osamu Kobayashi et Noriyuki Iwadare.
Oui, puis c'est intéressant, il y a vraiment ce côté, tu dis musique du monde, il y a ce côté voyage par les sonorités, par les timbres, où on va justement, il va aller piocher dans diverses civilisations, diverses cultures musicales et apporter cette variété, en fait, dans la musique.
Oui, par exemple, il y a le personnage de Gadwin, lui, quand on l'affronte, en fait, c'est une sorte de musique de western, en fait, oui, qui se va un peu siffler avec des choses comme ça. Et donc ça, par exemple, on l'avait vu dans Final Fantasy VI. Avec Shadow. Mais là, en fait, ça marque aussi parce que ça, c'est un peu dépareillé, effectivement. Alors, c'est peut-être une conséquence d'avoir un développement comme ça qui est un peu chaotique, mais
oui, n'empêche que ça passe bien. Ça faisait plaisir, en fait, à l'époque dans le JRPG, hein, aller dans tous les sens.
Voilà.
Colin, si tu étais un pays où voyager pour avoir ce sentiment d'aventure?
Alors on va dire peut-être le Japon, parce que c'est pas un pays dans lequel j'ai déjà été. Mmh. En même temps, culturellement, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Alors j'aurais pas envie d'y vivre, mais pourquoi pas aller un peu découvrir l'envers du décor, la campagne japonaise, éventuellement de l'artisanat, et des choses comme ça.
Ok.
Colin, si tu étais un plat au niveau culinaire, ton plat préféré, lequel tu serais?
Alors on va dire le bœuf bourguignon, assez rustique, mais en même temps il y a des moyens d'en faire quelque chose d'un peu visionnaire.
Parce que tu as l'air d'être un vrai cordon bleu, si j'en crois ton fil Twitter.
C'est vrai, ouais.
Colin, si tu étais, non c'est sérieux, un film d'animation... Parce que tu en as vu déjà, non?
Oui, évidemment. Alors on va dire Akira, par exemple.
Okay.
C'est pas forcément mon préféré, loin de là, mais c'est quelque chose qui est très très marquant, en fait, visuellement, quand il sort à l'époque.
Oui, bien sûr.
Contrairement à mon être, je suis pas quelqu'un de très marquant.
Si tu étais un système de combat de RPG, mais qui n'est pas celui de Grandia?
On va dire, alors dans le RPG aujourd'hui, on va dire Dark Souls, en fait. C'est quelque chose que j'adore, en fait, ce système de combat là, même s'il est un peu cassé par moment. Mais n'empêche qu'il est, hyper hyper profond, en fait, quand on va dans le développement des personnages, justement, des statistiques et ce genre de choses.
Eh bien, très bien, on va arriver dans la dernière partie de l'émission. Donc, on l'a dit, Grandia, ça sort en décembre 97. Annoncé comme le FF7 Killer pour la Saturn. Hein, donc, bon, là-dessus, ils sont un petit peu loupés. Donc, on l'a dit, 4 ou 50 devs, c'est quand même énorme. Mais on a quand même des ventes, finalement, qui sont plutôt correctes, hein, pour l'époque, 350 000 ventes. Ça reste quand même un succès, quoi.
Et bah, puis, aujourd'hui, 350 000 ventes pour un RPG au Japon.
Aujourd'hui, c'est le
succès de tous les temps.
Mais il faut, aussi savoir que 350 000 ventes, il faut comparer avec les ventes de la Saturne en elle-même. Et finalement, il y a, je ne sais plus combien exactement, mais plus de, 50% des gens qui possèdent une Saturne. Qui
attention, il y a des fans de Sega dans, ah bon, dans le coin.
Je vais peut-être dire une connerie.
Ils sont partout.
Et puis, c'est un jeu qui a quand même eu plusieurs versions qui sont sorties et qui, justement, pour essayer voilà, de récupérer ça.
Oh, doucement.
Pour essayer de récupérer un peu de ventes supplémentaires. Et puis, c'est passé aussi par justement la version PlayStation qui est sortie après. Mmh.
Tout à fait, pour l'arrivée en Europe. Donc, quand on l'a découvert à l'époque, bon, c'était un jeu qui était techniquement plutôt intéressant. Mais là, question divisée, est-ce que tu trouves que le jeu a vieilli aujourd'hui ou est-ce qu'il peut être fait tranquillement? Parce qu'il y a quand même eu un remaster HD qui est sorti il y a peu de temps, donc avec le deuxième épisode. Est-ce que tu le conseilles aujourd'hui?
Alors, pour te répondre à ta première question, je pense qu'il y a des choses qui ont vieilli dans le jeu, et j'en parlais un peu plus tôt, c'est notamment les décors. Les décors en combat qui sont assez hideux aujourd'hui.
Bon, vas-y.
Par contre, tout ce qui est animation, ben, moi, je trouve ça, en fait, c'était moderne à l'époque, et c'est encore moderne aujourd'hui, parce que finalement, il y a assez peu de licences qui ont récupéré ce genre de choses. Et maintenant, pour le remaster, alors, je le conseille si vous avez jamais fait Grandia ou si vous êtes nostalgique de cette époque-là. Par contre, il faut savoir que, notamment en termes de traduction, il y a quand même eu quelques soucis.
Il est traduit en français, donc on ne va pas être trop exigeant.
Voilà, faut pas être trop exigeant. À l'époque, je pense que c'est un des premiers JRPG que j'ai joué en français à l'époque, bon, à part les FF et tout ça. Mais là, il n'y avait pas autant de moyens à l'époque, je pense. Mais du coup, aujourd'hui, quand on joue au remaster, il y a quand même quelques soucis d'adaptation des dialogues, on va dire. Ça reste compréhensible, mais on n'a peut-être pas toutes les subtilités. L'implémentation pour une personne native française. Et c'est encore plus visible avec Grandia 2, par contre, donc qui est vendu en bundle sur Switch.
Oui.
Par contre, voilà, ça permet justement ces remasters Switch et Steam. Ça permet quand même aujourd'hui d'y jouer de façon relativement plaisante. On perd quand même des détails puisque c'est basé sur la version PlayStation qui était déjà moins détaillée en termes d'animation, c'est-à-dire que les sprites ne sont pas sur huit faces mais sur quatre. Donc il y a un miroir entre les deux côtés des personnages, mais à part ça, en fait, si vous n'êtes pas un puriste, ça vous choquera pas, je pense.
C'est un jeu qui avait vraiment été pensé pour la Saturn, donc c'est vrai que pour leur portage PlayStation, ils avaient eu quelques difficultés techniques.
Comme c'était souvent le cas à l'époque, Symphony of the Night aussi, je crois, Tomb Raider aussi, je crois, était sorti sur Saturn en premier. C'est vrai que moi, pour mon cas, par exemple, qui ai découvert le jeu il y a quoi, 2 ans, hein, que j'avais jamais fait à l'époque, j'ai trouvé qu'il n'avait pas tellement vieilli. Alors, il y a quand même un déséquilibre assez fort, je trouve, entre les séquences de donjon qui sont un petit peu rébarbatives, tout ce qui est exploration, combat et le côté scénario. Le scénar est cool, il y a beaucoup de dialogues, mais c'est souvent très très réduit, ce qui a un peu un avantage, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a tendance à un peu s'étirer en longueur. Mais j'ai quand même trouvé le jeu très très cool, et vraiment, pour moi, j'ai cette image a posteriori, Grandia, c'est le JRPG, tu vois, c'est le RPG de l'époque, l'aventure, c'est coloré, c'est cool. Enfin, je pense, si vous êtes curieux et que ce qu'on vous dit, ça vous donne envie, jetez quand même un œil à la version Switch, ça pourrait vous plaire. Et puis, le jeu est pas spécialement difficile non plus, donc ça reste praticable assez facilement, quoi. En tout cas, la série a continué après, parce que ce premier Grandia, il a quand même finalement marqué son époque, hein. Alors, tu peux commencer à parler du Grandia 2, donc lui qui est sorti sur la Dreamcast, si j'ai pas de bêtises.
Au départ, oui.
Ouais, alors à l'époque, j'ai l'impression qu'il avait été plutôt apprécié, mais avec le recul, j'ai l'impression qu'il se fait un peu chahuté. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Alors, en fait, c'est Grandia 2, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé, en fait, faire à l'époque. Par contre, il y a quelque chose qui peut choquer si vous avez fait Grandia 1, c'est que c'est beaucoup moins original, il y a beaucoup moins ce côté voyage, il y a beaucoup moins le côté lumineux aussi, parce que c'est finalement, Grandia, c'est. En fait.
C'est vrai que c'est plus les mêmes persos, c'est plus le même univers.
Alors que ça soit pas les mêmes persos, à la limite, c'est pas très grave. En fait, l'univers, c'est quasiment un décalque du univers du premier. C'est-à-dire, le premier, vous avez le mur en plein milieu du monde. Dans le 2, vous avez une sorte d'abysse qui sépare le monde en deux aussi. Donc, finalement, il y a quelque chose comme ça qui est un peu une filiation. Il y a aussi tous les systèmes qui sont repris. Par contre, Grandia 2, c'est un personnage taciturne. Le personnage secondaire, c'est une prêtresse. Par contre, il y a un personnage qui est très plaisant, c'est Milenia. Donc, qui est une sorte de démon, en fait, de démon qu'on rencontre au départ et qui a une évolution de personnage qui est très, très intéressante et qui est assez drôle en plus.
Un petit twist sympathique, voilà. N'en disons pas plus.
Mais ça reste un jeu qui est beaucoup moins original sur ce côté. En fait, c'est ce qu'on attend en 2001 quand il sort. horreur, c'est ce qu'on attend du RPG.
Oui.
C'est-à-dire quelque chose d'assez sombre, avec un grand méchant visible assez vite, des retournements de situation qui se voient venir à 1000 km, des choses comme ça, quoi.
Damien Grandia 2, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu as creusé, est-ce que tu as eu
pas
envie de...
Pas du tout, justement parce que je voyais pas le rapport avec Grandia, ou en tout cas ce qui pouvait m'intéresser à Grandia. De toute façon, à ce moment-là, j'avais pas encore fait déjà le premier, donc j'étais encore moins intéressé de Grandia 2. Et une fois que j'ai fait le premier Grandia, je me suis dit, mais je vois pas ce qui me donnera envie de me lancer dedans. Parce que quelle est la spécificité du jeu? Où est passé l'esprit d'aventure qui fait le... Alors, on demande pas à ce que tous les jeux d'une même licence soient à chaque fois dans le même esprit, etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment un truc très marquant de Grandia et qu'on retrouve pas dans cette suite.
Ouais, et là, on peut être encore plus oublié Grandia 3. Alors lui, j'avoue, moi, je vois même pas à 3 à quoi il ressemble et tout. Est-ce que toi, Colin, c'est un jeu que t'as fait
Oui, alors je l'ai pas fait à l'époque, parce qu'il faut savoir que Grandia 3, bon, vu le non-succès de la licence sur les suites, en fait, Grandia 3 n'est jamais sorti en Europe. Il était sorti aux États-Unis, mais à l'époque, évidemment, si vous aviez pas une PS2 pucée, vous pouviez pas y jouer. Par contre, là, il était jouable, en fait, il y a quelques années sur le PSN US.
Oui.
Et donc, je l'avais fait à cette occasion-là, et franchement, j'étais très déçu, parce que c'est encore pire que le 2 en termes de scénario convenu, de personnages très shonen, mais aussi très agaçants, en fait. Bon, ils passent leur temps à hurler. En fait, ça pourrait être original au départ, parce que c'est une sorte d'aviateur qui veut absolument aller découvrir le monde en avion, mais qui passe son temps à se cracher, en fait. Et moi, je trouve que c'était très marquant dans ce jeu, c'est que le jeu aussi se crachait lui-même.
C'est rigolo, parce que je suis en train de mater des images. Là, je trouve ça à la tête de Phantasy Star Online.
Oui.
Donc, Grandia 3, je retiens surtout la bande-son. J'ai pas du tout fait le jeu, mais j'avais pas mal écouté les musiques. Et ouais, il y avait du Iwadare. Je sais pas s'il était tout seul ou pas, je m'en rappelle plus. Mais il y avait vraiment ça, quelques super morceaux, encore une fois, orchestrés dans le lot, quoi.
Et l'intrus, on va dire, le mouton noir, c'est Grandia Xtreme. Alors lui, qu'est-ce que c'est? C'est même plus un RPG, je crois.
Alors, je peux pas te dire, je crois que c'est un action RPG, mais je saurais pas te dire exactement. Il y a également Grandia Online, qui était sorti, mais bon, je pense pas qu'il soit arrivé chez nous. J'ai plus vraiment en tête. Honnêtement, c'est des jeux, bon, qui sont difficilement jouables, je pense, aujourd'hui. Et surtout, bon, moi, ils m'ont évidemment pas marqué, puisque je n'y ai pas joué.
Après, c'est intéressant, parce que malgré toutes ces suites qui ont moins marqué, qui sont pour la plupart même pas sorties en Europe, qui ont été pas très appréciées, on retient quand même Grandia. Le nom Grandia reste culte aujourd'hui,
c'est
associé à quelque chose, c'est associé à ce premier jeu, à cette aventure, et je trouve ça fort qu'il ait vraiment réussi à garder le cap malgré la déchéance de la licence.
Ouais, mais je vais peut-être faire les puristes, mais est-ce qu'on n'est pas dans un cas à la Valkyrie Profile? Alors t'es bien placé pour répondre, Colin, du premier épisode tellement culte finalement, et que ses suites n'ont jamais réussi à égaler, quoi.
Ouais, mais elles sont quand même bien, ces suites.
Alors, les suites de Valkyrie Profile, moi, je les adore, honnêtement. Elles sont très différentes du premier. Elles n'ont pas les mêmes points forts, mais elles en ont d'autres, en fait. Et donc, elles réussissent à exister par elles-mêmes. Alors, par contre, le seul truc, c'est qu'il y a eu moins de marketing et qu'elles n'ont pas été distribuées.
On est quand même loin du culte du premier épisode, qui
évidemment,
reste un des mythes du
bien
RPG.
Sûr, quoi. Par exemple, tu vois, ils ont fait le Tactics, là, Covenant of the Plume, sorti sur console portable. Donc, effectivement, c'est pas du tout l'ampleur d'un grand JRPG mais ça reste un jeu super réussi, qui a marqué ceux qui ont pu s'y essayer. Donc c'est une licence qui, en termes en tout cas d'aura et de portée critique et même dans l'ambition artistique, a toujours eu un truc intéressant. Jusqu'à le truc bizarre Valkyrie Elysium récemment. Mais avant ça, c'était vraiment, tu voyais les trois principaux Valkyrie Profile, t'en avais aucun qui te disait ouais c'est quand même le bouton noir, ou alors ouais tu sens qu'il y a une déchéance dans la série. Après, le premier, par sa proposition, reste le plus original et le plus fort, évidemment. Donc je vois l'affiliation que tu...
Oui, donc on retient quand même ce premier épisode, Grandia. Est-ce qu'il a laissé un héritage? Alors, en te posant une question tout à l'heure qui ira un peu dans ce sens-là, mais qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de Grandia? Il y a ce système de combat, notamment, qui est peut-être l'un des plus grands points forts du jeu qu'on n'a pas encore mentionné. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu en deux mots? En quoi il est singulier et pourquoi il a marqué?
Alors, il est singulier parce qu'à l'époque, on a beaucoup de JRPG comme ça qui se jouent au tour par tour. Donc... En fait, à chaque tour, les ennemis et puis nos personnages vont sélectionner des actions et ça va s'effectuer après dans le sens de passage. Alors, à l'époque, il y avait déjà le système ATB des Final Fantasy qui essayait de pousser un peu le côté avec les différentes vitesses des personnages. Et Grandia, en fait, c'est poussé à son paroxysme. Dans le sens où maintenant, en fait, on a une barre d'action, en fait, sur laquelle les ennemis et les personnages sont positionnés. Arrivé à un certain moment de la barre, on va pouvoir sélectionner l'action. Et ensuite, l'action va mettre plus ou moins de temps à se dérouler pour avant d'être lancée. Et puis, il y a également tout le côté déplacement des personnages, le temps également de l'animation de donner un coup, qui vont jouer, voilà, sur le côté tactique un peu. C'est-à-dire, des fois, on va plutôt être amené à envoyer des coups rapides. D'autres fois, on peut tenté d'envoyer un coup plus lent, mais qui va faire plus mal. Et également, il y a des coups qui permettent de stopper l'action des adversaires. Et donc, tout ça, en fait, c'est des choses à prendre en compte dans le déroulement des actions.
Oui, c'est vrai que dès qu'on maîtrise un peu le système, on peut attaquer au bon moment pour empêcher l'ennemi de déclencher son tour et donc d'attaquer deux ou trois tours de suite sans qu'il puisse réagir. Et là, on a vraiment ce côté jouissif de dire « Ok, j'ai craqué le jeu, je suis trop fort. »
Oui, et puis faire des combos aussi, tout simplement, pour faire de plus en plus mal. Éventuellement, il y a même la possibilité de faire des perfects, c'est-à-dire de d'empêcher en fait l'ennemi de faire toute action offensive. Et puis du coup, nous on gagne le combat, on est hyper content, quoi.
Et donc tu as dit ce déplacement aussi sans être du tactical, c'est qu'il faut quand même prévoir où se situe le personnage, qui va attaquer, et parce qu'on peut se faire intercepter par exemple sur le chemin pour aller frapper l'ennemi, quoi.
Voilà. Ou alors un peu plus compliqué, c'est que il y a des problèmes de pathfinding des fois pour les personnages. C'est pas quelque chose qui est très bloquant dans le jeu, mais ça peut arriver, voilà, que deux personnages en fait courent dans la même direction et qui s'empêchent de passer l'un de l'autre, quoi. Oui. Donc ça, faut faire attention à quelle cible on choisit aussi.
Damien, est-ce que ce système de combat, il t'a convaincu, toi, à l'époque ?
Bah, à l'époque, non. justement, non, mais je comprenais pas, ça m'attirait pas. Ensuite, quand j'ai refait le jeu, ouais, j'ai bien apprécié. Après, je n'ai pas des souvenirs extraordinaires, mais j'avais trouvé la proposition originale, c'était efficace, dynamique, ouais, ça m'a plu.
Parce que j'ai l'impression qu'on a un JRPG sur deux aujourd'hui qui se réclame un peu de l'héritage de Grandia, et qu'à chaque fois on dit ça s'inspire du système de combat et tout le monde est content. On a vu d'autres jeux qui clairement allaient dans cette direction-là, il a quand même eu une influence assez dingue sur le genre, quoi.
Oui, alors c'est peut-être pas une influence directe au sens du gameplay. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de jeux qui sortent qui justement affichent en fait les tours d'action des ennemis et des héros, qui permettent comme ça d'anticiper un peu les actions qui vont avoir lieu, quand lancer tel coup ou tel soutien. Et finalement, c'est quelque chose qui se retrouve énormément, mais le système lui-même de Grandia a assez peu été réutilisé. Par contre, voilà, on va peut-être parler de jeux qui s'inspirent directement sur la forme et sur le fond de Grandia. Je peux en citer quelques-uns, donc il y avait notamment toute la série des Kiss et Kiss, c'est-à-dire les Legend of Heroes, qui sont une série de Falcom qui est assez vieille, hein, qui est même plus vieille que Grandia, et qui continue encore aujourd'hui, donc avec la série des Trails in the Sky, les Trails from Cold Steel, les Trails of Cold Steel, et puis dernièrement il y a également les épisodes interstitiels qui sont en train de sortir.
C'est compliqué, on en voilà. Parlait autour du café tout à l'heure pour s'y retrouver.
Voilà. Beaucoup.
Mais c'est en tout cas trouvable aujourd'hui sur Steam, je crois que tu disais.
Alors la plupart sont sur Steam, il y en a qui sont sur PSP, sur Switch ils sont en train de sortir également. Et donc c'est des séries de jeux en fait qui sont très bavards et qui reprennent en fait toute la forme avec l'animation, les portraits qui changent, voilà, les animations des sprites qui sont très expressives aussi, et qui ont également un système de combat qui mêle un peu le côté tactique et dynamique de ce qu'avait Grandia, c'est-à-dire qu'on va se déplacer cette fois-ci sur un quadrillage, mais globalement on va quand même se déplacer avant de lancer le coup. On voit les tours d'action qui apparaissent, il y a des moyens d'intercepter, de lancer des coups au bon moment en fait, pour faire de plus en plus mal, et voilà, donc c'est dans l'esprit, c'est un peu identique, quoi.
C'est la série cousine des Is, c'est ça, donc par le même développeur mais qui est peut-être un peu moins connu, quoi.
C'est la deuxième grosse série de Falcom, qui est une série vraiment fleuve aujourd'hui, et puis qui est voilà, des jeux très massifs en fait. Les Is, c'est plus le côté action en fait de Falcom.
Qui les sont, Trails, moi j'ai eu pas mal de comparaisons avec les Suikoden sur notamment la richesse du monde et tout, le développement, tout ce qui est PNJ, qui vont avoir constamment des lignes dialogues qui vont évoluer au fil de l'avancée des histoires, etc. Donc c'est aussi, c'est un peu, voilà, si vous cherchez un mélange, un héritier des Suikoden et des Grandia, peut-être que ça peut être...
Voilà, alors pour Suikoden, effectivement, comme tu le dis, il y a le côté pouvoir parler à tout le monde et avoir toujours un retour en fait un peu humain du personnage, et pas juste je vais t'aider, t'inquiète, va parler là, quoi. Par contre, il n'y a pas tout le côté, effectivement, combat tactique et puis recrutement de personnages. Mais c'est quand même des castings qui sont intéressants.
Et Yuden pour ça, si vous voulez.
Voilà. Et la ressortie des Suikoden.
La ressortie des Suikoden.
Moi, j'en place une game pour Child of Light. Je pense pas que tu penses à en parler derrière. Ouais. Qui est un RPG d'Ubisoft qui avait été fait avec le moteur de Rayman en 2D, qui était assez magnifique. Ils avaient un manou, fait un poster et tout. Alors, c'est un jeu très light, hein, comme son nom l'indique. Hein, c'est pas pour les vieux routards du JRPG comme vous. Mais qui reprend texto le système de combat de Grandia. Et que moi, j'avais plutôt bien kiffé à l'époque. Et comme je suis un des seuls à m'en souvenir, j'ai l'impression, de ce jeu, ben, je voulais le placer là-dessus.
Et... je vais peut-être placer aussi un mot pour Skies of Arcadia,
ouais.
Dont il y a d'ailleurs un ludothèque très bien écrit chez vous.
C'est vrai.
Skies of Arcadia, moi, c'est un jeu que je comparais souvent en fait à Grandia dans l'esprit justement aventure. Ouais, alors là, clair. On est vraiment sur le côté pirate,
pirate du ciel,
pirate du ciel, voilà, qui vole et tout. Et donc on retrouvait énormément cette ambiance là, je trouve.
Ouais, puis ce côté exclu Sega aussi, à chaque fois qu'il essaie de lancer des nouvelles licences et finalement, bon, ça se passe pas forcément toujours très bien.
J'attendais qu'on parle de Skies of Arcadia, parce que c'est, voilà, pour, je veux dire, finir sur qu'est-ce qu'il y a à faire après Grandia. Si vous cherchez la grande aventure, ouais, Skies of Arcadia à 200%.
Je vous propose qu'on enchaîne direct sur la suite, comme ça on termine tranquille. Donc, les conseils de l'auteur, c'est que là on a parlé de jeux qui vont dans le sens de Grandia. Est-ce que tu as d'autres œuvres, toi, qui t'évoquent un peu cet esprit-là, que tu pourrais conseiller aux gens?
Oui, alors il y a des œuvres que j'évoque en fait dans le livre. C'est toutes les œuvres qui ont pu inspirer en fait cet inconscient collectif, et notamment donc tous les romans de Tom Sawyer, Huckleberry Finn, éventuellement les romans de Jules Verne également. Voilà, alors je vais pas forcément vous donner des pistes, mais elles sont assez connues, je pense.
Oui.
Et il y a quand même pléthore de romans de l'époque que vous pouvez aller lire. Et ça se lit très bien aujourd'hui.
Et les romans de piraterie aussi.
Voilà, tous les romans de piraterie, Stevenson, L'île au trésor.
Ça ferait plaisir à Nicolas Denéchaud, ce qu'on est en train de dire. Je sais pas s'il nous écoute. Denéchaud, effectivement. Damien, on conclut l'émission avec l'actu sort comme d'habitude. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui se passe? Alors, on sait pas trop quand va être diffusée l'émission.
Nous sommes dans un mois indéterminé.
Voilà, on va parier sur avril-mai.
Au mois d'avril, nous avons sorti ou nous allons sortir un livre sur les origines, enfin l'histoire non officieuse de Street Fighter, donc de toute la saga, ouais, racontée par ses créateurs. Donc en gros, c'est vraiment une collection d'interviews de plus de 60 personnes. C'est un livre qui avait été fait par Matt Leone.
C'est ça.
Je sais pas si ça se prononce comme ça.
Je sais pas non plus.
Et donc voilà, c'est un très beau livre qu'on vous conseille.
Voilà, donc des origines de Street Fighter, de la création sur borne arcade et tout, plein jusqu'à un peu de la déchéance du jeu de combat après Street 3.
Comment ça, quoi. Et ensuite, en mai 2023, donc c'est un livre sur les livres dont vous êtes le héros.
Oh là là!
Écrit par Raphaël Lucas. Donc, si vous connaissez un peu Raphaël Lucas, ça ne vous surprendra pas. Ça fait partie de ses sujets de prédilection. Voilà. Mais voilà, donc c'est.
Il a fait le tour sur le RPG. Donc, il remonte encore à l'étape d'avant. Donc, les livres dont vous êtes le héros, bah, qui fêtent, je crois, leurs 40 ans cette année. Donc, il y a vraiment toute cette collection un peu nostalgique de notre enfance. Et on en parle en long, en large, en travers. Et donc, c'est cool. On vous conseille d'aller jeter un œil là-dessus. Merci, Damien, pour ce topo. Merci pour ta présence dans ce podcast. Merci. Pour préparer l'émission, tu m'as rendu service, merci beaucoup.
Pas de souci.
Merci Colin aussi, merci à toi d'avoir été là, d'avoir un peu dévoilé tes secrets, tes découvertes autour de Grandia, ça fait super plaisir.
Ben, merci à vous, merci pour l'accueil et pour le café également.
Eh bien, écoute, avec plaisir, on va aller manger au resto maintenant, tranquillou. Et juste pour conclure, on demande à chaque fois de l'auteur de choisir une musique pour conclure cette émission. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi et pourquoi?
Alors, est-ce que je pouvais choisir autre chose que le Theme of Grandia, donc qui est la musique emblématique du jeu? Je pense pas. Je pense que Damien sera d'accord.
Vas-y.
Ben, donc, ça sera le Theme of Grandia.